Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours senti qu'à un moment, j'allais arrêter tout ce que j'étais en train de construire pour m'offrir une seconde naissance, quoi. Je m'appelle Adrien, j'ai 34 ans et je me trouve actuellement à Cambury, au Brésil. Cambury, c'est un joli petit écrin perdu à 150 km au nord de São Paulo. C'est très joli, c'est des montagnes de jungle qui tombent directement dans l'eau. Et il y a deux espèces de baies comme ça, rondes, qui font la forme d'un cœur, si on a l'esprit romantique. Et c'est un très joli petit coin qui respire énormément et qui permet de sortir de São Paulo très facilement et de changer complètement d'univers. Ça fait maintenant 4 ou 5 mois que j'habite au Brésil. Ça fait 4 ans et quelques que je fais des allers-retours réguliers ici. Mais là, ça y est, je suis vraiment installé. J'ai ma carte de résident définitif. J'ai mes documents et je viens même d'ouvrir un compte en banque. La vie au Brésil, elle est très différente de la vie en France, évidemment. En fait, tous les clichés qu'on connaît et qu'on attribue au Brésil sont vrais. Mais c'est aussi pour ça que c'est agréable à vivre. Déjà, il fait beau et chaud la plupart du temps. Et puis surtout, je pense qu'il change beaucoup le quotidien. C'est vraiment le rapport qu'ont les gens entre eux. Alors, c'est ça justement que je disais qui fait très cliché. Mais c'est vrai, la vie est plus légère, est plus colorée, est plus facile. C'est plus bordélique, mais au final, moi, c'est une organisation qui me va bien. C'est une vie qui est plus facile, en fait, je crois. J'essaye de dire des choses qui tombent pas dans les clichés qu'on peut faire d'habitude, mais je crois que c'est un cliché, la vie au Brésil aussi. Les gens sont cool, souriants, ils se prennent pas la tête, ils galèrent, mais ils vont bien. C'est d'ailleurs ce qu'ils chantent depuis toujours dans la musique brésilienne, et c'est pour ça qu'on les connaît, et je crois que c'est pour ça que les Français aiment bien les Brésiliens. Et en fait, tout ça, ça combine très bien. Donc moi, je me sens très bien ici, en tout cas.
En 2016, une grande étude mondiale menée par 190 chercheurs sur les données génétiques de 300 000 personnes essayait de décrypter les aptitudes des êtres humains à être heureux. Cette étude a conclu, comme d'autres auparavant, que oui, nos gènes jouent un rôle primordial dans notre capacité au bonheur, mais que notre état d'esprit est lui aussi primordial. Bref, qu'être heureux est un savant mélange d'inné et de volonté. D'après ceux qu'ils connaissent, Adrien semble plus apte au bonheur que beaucoup de gens. On dirait que les bonnes choses lui tombent dessus, mais on dirait qu'il sait aussi les provoquer. En 2017, Adrien a annoncé à ses amis qu'il quittait une vie parisienne joyeuse et confortable pour s'installer définitivement au Brésil. Un pari, un risque, un acte d'amour ou de panache, selon qu'il regarde. Les humains ne voient pas souvent les choses de la même façon. Il a pris le temps de nous raconter son histoire, confortablement installé sur la terrasse d'un hôtel de Cambury, au nord de São Paulo. Voici le témoignage d'Adrien, et c'est aussi le troisième épisode des Déviations, des histoires de gens qui ont changé de vie.
Quand j'ai 20 ans, j'habite à Paris. J'habite à Paris et je viens de terminer des études assez classiques qui ont commencé autour du commerce, qui se sont poursuivies autour de la communication et du journalisme. Et là, je commence un stage. Je commence à bosser dans une radio. Et ça me plaît énormément. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas vers quoi je voulais me diriger. Et je me retrouve dans cette radio catapultée dans un monde qui me plaît énormément, en fait, qui correspond en rien à l'idée que je me faisais du monde du travail. Et puis, j'y reste là pour un premier stage, pour un second stage, pour un troisième stage qui, au final, va se transformer en un premier emploi. Et au final, je vais rester 10 ans là-bas. 10 ans pendant lesquels je vais faire pas mal de boulot. J'ai commencé en tant qu'assistant d'animateur et puis je suis passé par le chargé de communication de la radio. Et puis surtout d'écrire pour le site, de faire des interviews, de faire un peu de vidéos, etc. Et quand j'arrive à 30 piges, du coup, ça fait 10 ans que je travaille pour cette radio. Et ça fait déjà beaucoup de signaux qu'un cycle vient de se passer. J'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je bosse au même endroit. Et surtout, ça fait un bout de temps que j'ai dans la tête l'idée de faire autre chose. En fait, de connaître autre chose. J'ai pas envie de vivre toute ma vie à Paris ou en France. J'ai envie de m'offrir une seconde vie. J'ai envie de recommencer quelque chose de nouveau. J'ai envie de perdre mes repères. J'ai envie de voir ce que je vaux dans d'autres circonstances. Donc je décide de me barrer 1 an en Amérique du Sud, sauf que je voulais d'abord commencer par vivre dans une autre ville. Je voulais apprendre une autre langue, je voulais connaître des autres gens, je voulais avoir un autre quotidien, je voulais avoir des autres habitudes. Et puis cette ville, elle apparaît dans ma tête en clignotant en gros, c'est Rio de Janeiro. C'est Rio parce que je connais pas cette ville, parce que c'est le Brésil, et le Brésil ça veut dire la chaleur, la musique, le football, la plage, des paysages incroyables, des jolies filles, de la samba, enfin... Pour moi, ça, c'est à peu près tous les aspects d'un monde qui m'attire. Donc j'arrive au Brésil, j'arrive à Rio. Je connais personne, ni la ville, ni la langue, ni rien. Et je vais rester 4 mois ici. Le changement de vie, c'est le moment où tu casses ton quotidien, quoi. Où tu dis, vas-y, je m'en fous... J'ai l'âge, c'est le moment, j'ai envie, de toute façon j'ai ça en moi depuis longtemps, il faut que ça arrive, je serais trop triste de... En plus à ce moment-là, ce dont je flippe à la limite, c'est de rencontrer quelqu'un dont je tombe amoureux, que je commence à faire une histoire qui va devenir une vraie histoire et tout, je me dis non, il faut que je me barre, il faut que je vive ça. Donc il fallait que je le fasse, et donc il fallait que je le fasse à ce moment-là, puisque à 30 piges et à 10 ans d'ancienneté dans mon boulot, c'était un bon moment pour bouger quoi. Le chiffre était rond, c'était bien pour me barrer et faire autre chose. Donc, moi, je considère que c'est à ce moment-là que je change de vie. C'est au moment où je me dis, vas-y, c'est bon, j'y vais. Et je peux te dire que c'est là aussi où j'ai la sensation. C'est que le jour où je suis dans l'avion, on est le 11 novembre 2013. Et là, je suis dans l'avion. Je pars avec juste un sac de fringues, une GoPro, et puis je me barre. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous, quoi ? Demain, t'arrives à Rio, tu connais pas la ville, tu connais personne sur place. Tu connais pas la langue, tu connais pas les rues. En plus, bon, tout le monde dit que ça craint. Et t'en as pour 1 an, quoi. Donc j'arrive là le soir. J'arrive, il est genre minuit. J'avais trouvé un endroit où pioncer là-bas pour 3 mois. Une chambre dans un appartement, dans l'appartement d'un couple. À Copacabana. Copacabana, ça me fait tellement rêver. Je suis là en train de me dire, putain, demain j'arrive à Copacabana. Et n'empêche que j'arrive, je dors, je me réveille. Et là, tu te fais, bon, bah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Et je sais pas, en fait, je sais pas ce que je fais aujourd'hui, j'en sais rien, j'ai plus rien de prévu, j'ai plus de potes à voir, j'ai rien, quoi, je sais pas ce que je fais. Je vais à la plage, comme j'ai entendu que ça craint, je m'attache juste ma clé à la ficelle de mon short de bain. À l'époque, je mets encore des shorts de bain, aujourd'hui, je me balade plus qu'en slip de bain. Le Brésil, ça te change un homme. Et donc, je vais à la plage, je suis là, je squinte un peu à la plage. Je me dis, ah ouais, ok, c'est comme ça et tout. Puis après, je passe au supermarché, je vois des fruits et des légumes que je connais pas. Ils sont orange, jaune, il y a des caramboles, il y a des maracujas, il y a des cajous, il y a des fruits de jack. Je sais pas comment ils se mangent, je sais pas comment ça se fait. C'est une monnaie que je connais pas. Et puis là, tu commences vraiment un nouveau truc. Là, je trouve, t'as l'impression que tu changes de vie. Alors bon, ça reste des vacances en fait, hein. Ça reste cool, tu vois, l'ambiance est cool. Mais à ce moment-là, vraiment, tu te dis. Là, c'est dingue ce que je vis. Il y a peu de moments, je pense, que tu vis en te disant « Là, ce moment-là, il est ouf. » Mais ce matin-là où je me réveille à Copacabana, ce moment, il est dingue. Donc, je suis au Brésil. J'habite à Rio depuis 3 mois. Et je dois normalement quitter le Brésil parce que mon visa arrive à expiration. Sauf que 2 semaines après, il y a le carnaval. Et tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, ils m'empêchent de partir en fait. Ils me disent, tu peux pas venir au Brésil, passer 3 mois ici et te barrer 2 semaines avant le carnaval. Tu peux pas le faire, on va pas te laisser faire. Donc, conciliant, je reste. Je dis OK pour le carnaval. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que c'était une fête énorme, etc. Ça m'intéressait, mais j'étais pas fou de vivre le truc. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et donc, je reste. Quand tu restes là-bas, en fait, après, tu te prends une amende qui correspond au nombre de jours que t'as outrepassé ton visa. Donc, a priori, rien de très, très grave. Et là, c'est le premier jour du carnaval. J'ai pas de déguisement. Alors, ici, il faut savoir que le carnaval, c'est vraiment très important et très sérieux. Tu peux rigoler de beaucoup de choses ici, mais tu rigoles pas avec le carnaval. Donc, c'est des déguisements que tu fais toi-même. Tu en fais au minimum un par jour, en fonction des différentes manifestations que tu vas aller voir. Moi, je fais avec ce que j'ai. Je dois avoir des paréos, des lunettes, des chemises à fleurs mélangées avec des tissus un peu improbables. Je sais pas trop. Ça, au final, ça donne un espèce de gourou indien hippie, peut-être. Et là, je sors. Je me prépare ma petite bouteille en bon gringo. Les gringos, c'est tous les étrangers qui sont au Brésil. Ma petite bouteille de caipi. Je sors, je dois aller rencontrer des potes à un endroit où on est censé voir un concert, un groupe. Et là, j'arrive, personne. Ni groupe, ni ami. J'essaye de passer des coups de fil, de joindre mes potes. Personne ne répond, personne n'est là. Et je me dis, merde, j'ai l'air trop con, quoi. Je suis là au milieu d'une grande place, je connais personne, je suis paumé, je sais pas quoi faire. Et il se trouve qu'à quelques mètres de moi, il y a un groupe de jeunes filles qui, a priori, sont venues assister au même concert qui, semblerait-il, a été annulé. Et voilà, on est là, ça fait 10 minutes chacun qu'on attend qu'il se passe quelque chose, il se passe rien. Et puis au bout d'un moment, on engage la conversation, je sais plus, elle me demande qu'est-ce que tu fais là, bah, j'attends des potes, ils sont pas là, et vous, bah, on est venu au concert, mais il est annulé, ah bon, bah, moi aussi, j'étais là pour ça. Puis il se trouve qu'elles sont super cool, c'est des Brésiliennes qui viennent de São Paulo pour passer le carnaval à Rio. Et puis voilà, au bout d'un moment, ils me disent « Bon, bah nous, on se barre, on va à un autre truc, qu'est-ce que tu fais ?» J'étais là « Bah, j'en sais rien. Tu veux venir avec nous ?»« Bah, grave. Écoute, je suis au Brésil, j'ai perdu mes potes, je suis tout seul au carnaval. Grave. » Donc, on prend un taxi et on bouge. Et moi, en même temps, je découvre le carnaval. C'est mon premier carnaval, le premier jour, le premier endroit où je suis allé, ce fameux concert qui n'a pas eu lieu. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Et on arrive sur un espèce de square avec un kiosque au milieu. Et là, pareil, il y a des gens qui jouent. Alors, en gros, le carnaval, c'est des gens qui jouent. Ça s'appelle des blocos. Partout dans la ville, et en fonction de la musique que tu aimes, de ce que tu as envie d'entendre, des gens que tu connais, tu fais ton programme. Il y a des centaines de groupes qui jouent. Donc nous, on est là, on enchaîne les bières, on se balade un peu partout, on danse, on chante, on discute. Je discute avec l'une, un coup avec l'autre. Elles sont vraiment trop cool. C'est un groupe de 4 meufs qui ont à peu près mon âge. Et parmi ces jeunes filles, il y en a une avec laquelle on s'entend particulièrement bien. Cette jeune fille, elle est habillée en mexicaine. Elle a un espèce de sombrero en format minuscule sur le côté de la tête. Elle a un petit haut orange. Elle danse en chantant « Aïe, 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 caramba » toute la journée. Et elle est toute petite, toute fine, magnifique et trop cool. On se marre trop, on passe la journée. C'est génial, c'est ma meilleure copine dès le premier moment, quoi. Et elle s'appelle Kelly. Et toute la journée se passe comme ça. On va d'endroit en endroit, en marchant, en prenant un taxi, en prenant un métro. Petit à petit, on en perd une, on en perd une autre, on en perd une autre. Et il se trouve qu'on se retrouve tous les deux. Donc, on commence à suivre un bloco qui est itinérant cette fois, donc qui se balade dans des petites ruelles. C'est trop joli, tu vois, c'est genre le coucher de soleil, t'es dans une petite ruelle carioca, ça monte, ça descend, t'as des petites maisons coloniales, toutes colorées, à moitié déglinguées sur le côté. On chante, on danse, et à un moment, je veux faire pipi. Sauf que... on est en plein milieu du monde et tout, donc on sort de là, on va dans une petite ruelle, je fais « Ouais, je vais faire pipi ». Je vais pour y aller. Et là, il y a un des voisins qui sort et qui m'engueule. Mais putain, il me défonce, il me course. Et j'étais là, putain. Donc bref, j'arrive pas à faire pipi. Et finalement, elle s'est occupée de moi. Elle m'a dit, tiens, regarde, va faire pipi là-bas. Et après, on s'est roulé une galoche. Donc maintenant, chaque pipi est très spécial. En fait, normalement, le carnaval, c'est très léger en termes de relations. C'est-à-dire que le grand truc des mecs, c'est d'embrasser n'importe quelle meuf qui croise même dans la rue. Genre, t'es là, tu te balades, il y a une fille qui arrive en face de toi, les mecs là, les embrassent. C'est vraiment le dernier moment où tu rencontres normalement une amoureuse, pour le moins. D'autant plus que moi, normalement, je fais le carnaval et je pars continuer mon voyage. Donc la prochaine destination, c'est l'Argentine. Donc finalement, on se revoit, on repasse un jour ensemble. Et puis, c'est incroyable, on passe pas mal de temps. Ce jour-là, on est du côté d'Ipanema Leblon. Le carnaval de Rio, c'est cool parce que t'as des concerts qui réunissent des milliers de gens et en même temps, t'as la plage dans cette ville incroyable. Donc le cadre est super. Et en fait, on va passer toutes nos journées ensemble, tout le carnaval ensemble. Et elle, en plus, c'est drôle parce qu'elle, elle est au même moment de sa vie. Elle va avoir 30 ans. Elle est styliste depuis une douzaine d'années, je pense. Elle a commencé à travailler jeune. Et elle en a marre d'avoir ce même rythme. Et donc, elle avait décidé déjà à ce moment-là de partir aux États-Unis, en Californie, où elle a une cousine qui habite. Donc, quand on se rencontre, je suis là au Brésil depuis 3 mois, en train de commencer un voyage. Et elle est prête à quitter le Brésil pour aller commencer une expérience pour a priori au moins 6 mois en Californie. Donc on se croise comme ça à des moments de notre vie, peut-être finalement où on est les plus disponibles, même si c'est le dernier moment où j'aurais pensé rencontrer quelqu'un. Et on s'adore, donc on est dans notre bulle, on passe ses journées ensemble. On a du mal à se quitter, donc on va passer quelques jours à São Paulo où elle habite. Donc là c'est marrant aussi parce que on arrive chez sa maman, elle vit avec sa maman et sa sœur. Et sa maman, c'est une Paraguayenne qui est arrivée au Brésil à la naissance de sa plus grande sœur, très catholique. Et on débarque chez eux et elle est là, genre, ouais, bah, c'est Adrien. Elle a jamais ramené de mec à la maison. Et là, elle débarque avec moi, le gringo français, qu'elle connaît de nulle part, qu'elle a rencontré au carnaval. Et je vais passer 3 ou 4 jours à dormir sur le canapé chez eux. Donc elle, dans sa chambre, moi, sur le canapé. Un minimum de respect quand même. On se balade, je rencontre quelques potes à elle, on passe encore des super journées. Et puis là, pour le coup, il faut vraiment que je me barre. J'ai dépassé mon visa de plus d'un mois. Donc, je pars pour l'Argentine. Et là, on se dit au revoir. Alors là, c'est un peu plus pesant déjà parce qu'on a commencé à tisser des liens forts. Mais on se dit au revoir. Là, vraiment, elle va se barrer en Californie. C'est fini, quoi. Donc... on se souhaite le meilleur, on était hyper contents de se rencontrer, c'était une parenthèse enchantée, hors du commun. Mais voilà, on a chacun des trucs à faire et puis bonne route quoi. Et si un jour on se reverra, ce sera génial et puis sinon, sois heureux, sois heureuse et profite bien. Bon, bref, moi, je continue ma route, c'est-à-dire que je remonte au Chili, j'arrive à Santiago, je vais à Valparaiso, de là, je passe en Bolivie. Enfin, bref, je continue à remonter les Andes, et puis elle se barre en Californie. Et on continue chacun notre vie de notre côté, mais il se trouve que... en fait, on continue à discuter sur Facebook. On s'envoie des news, qu'est-ce que tu fais, c'était bien, machin, etc. Ce qui est super, mais en même temps... un beau jour, genre au bout de, je sais pas, 2-3 semaines, elle me dit, écoute, moi je t'adore et c'est super, mais ça sert à rien de continuer à discuter comme ça, tu vois, on est chacun à faire notre vie différente, je te souhaite tout le meilleur, je me souhaite tout le meilleur aussi, mais si on continue, on construit un truc qui n'existe pas, en fait, et en même temps, on se ferme aussi nous-mêmes des opportunités d'être vraiment libre dans ce voyage qu'on est chacun en train de faire de notre côté, quoi. Et elle a raison, en fait, ça sert à rien de continuer à parler comme ça si ça mène nulle part. Et en fait, je me dis ça, et puis en fait, je me dis, ouais, mais ça, c'est vrai si ça mène nulle part, mais en fait, j'avais jamais imaginé, mais je me dis, mais en fait, c'est possible de se revoir, il suffit tout simplement de faire en sorte de se revoir, quoi. Et là, je me dis, en fait, soit cette fille, je la revois jamais, soit je vais la voir. Donc, j'y réfléchis un peu pour savoir si je suis pas en train de m'emballer trop rapidement, mais j'y réfléchis, en fait, non, c'est ça que je veux, donc je lui dis, écoute... qu'est-ce que tu dis si j'arrive à Los Angeles ? Donc j'arrive aux États-Unis, j'arrive à Los Angeles, elle est à l'aéroport, et là tu sais, ça fait... En fait, là je te la fais rapide, mais entre le moment où je lui dis je viens et le moment où j'arrive, je pense qu'il y a 2 mois d'écart. Sauf que là, quand t'arrives, tu te dis... t'es plus dans le même état d'esprit que quand t'as décidé que t'allais y aller. Donc déjà, tu te dis merde... t'arrives même plus à te représenter exactement à quoi elle ressemble, comment était votre relation. Enfin, tu vois, t'es plus dans le même état d'esprit, donc tu sais plus exactement. Tu sais que si t'as pris cette décision, c'est que ça valait le coup, mais t'es plus dans cet état d'esprit du moment où t'as pris la décision. Donc j'arrive à l'aéroport en me disant qu'est-ce que. Est-ce que ça va matcher comme ça l'avait fait? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce que ça va être naturel? Est-ce que c'est un bon choix? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et là, juste de la voir, ça revient tout de suite, quoi. Tu sais exactement pourquoi t'es venu là. Donc voilà, je vais à Los Angeles, on se balade, on loue une caisse, on remonte tout jusqu'à San Francisco, Big Sur, machin, etc. Et puis encore une fois, voilà, on est comme dans un rêve, quoi. Quand on est ensemble, il y a une magie que j'ai jamais connue dans ma vie qui opère et qui fait que on est bien, genre 100%, quoi. Moi, j'ai toujours cru à. En fait, j'ai un bon exemple qui sont des parents qui sont ensemble depuis 35 ans. Bon, maintenant mon papa est décédé, mais qui ont toujours été super amoureux et en même temps super libres, indépendants, et qui ont continué à s'aimer. C'est-à-dire, ils ne sont pas restés amoureux de l'idée qu'ils avaient d'eux au début. Ils se sont aimés activement toute leur vie. Et donc, bon, ça, c'est un super exemple, parce que je crois qu'on est tous face à l'amour. C'est notre environnement qui nous aide beaucoup à croire au mariage, à croire en la rencontre, à croire en l'amour, etc. Moi, j'y ai toujours cru à fond. C'est-à-dire que j'ai toujours su que j'allais rencontrer la personne qui me correspondait. J'ai toujours été exigeant, je crois, parce que je voulais pas me contenter de quelqu'un. Je voulais quelqu'un qui me complète, quoi. Je me faisais assez confiance, et je faisais assez confiance en la vie pour oser croire que c'était possible et l'attendre. Et bref, donc on se balade au Mexique, et pareil encore, c'est incroyable, et pareil aussi avec cette deadline de se dire merde, d'ici peu, on va se reséparer, elle va retourner en Californie, moi je vais retourner par le Brésil puis rentrer en France, et qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc là je commence à réfléchir, et un beau jour on est au milieu du désert du Mexique. J'arrête la voiture, je me mets sur le bas-côté et je lui fais « Bon, écoute, qu'est-ce que tu penses de venir en France ?» Parce que je sais que, de la même manière que moi, j'ai un visa de 3 mois pour aller au Brésil. Elle peut avoir un visa de 3 mois pour venir en France. Moi, dans quelques mois, je vais revenir en France. Et j'ai envie qu'elle vienne avec moi. J'ai envie qu'elle fasse au moins ces 3 mois pour voir si, dans un contexte un peu plus normal, est-ce que ça marche aussi. Là où moi, j'ai mes habitudes, là où moi, je vais retrouver ma vie, entre guillemets. Donc je m'arrête, je lui fais « Vas-y. » Viens, quand t'as fini ton truc, quand j'ai fini mon truc, on va en France ensemble, on y passe 3 mois et on voit ce que ça donne. Parce qu'en fait, voilà, là, je suis tombé amoureux et puis on verra bien ce qui se passe, là, je suis tombé amoureux et il n'y a pas moyen, en fait, qu'on continue pas ensemble, quoi. Donc elle dit oui. Donc après, bon, ça c'est encore quelques mois plus tard, je finis mon voyage, donc j'ai fait 11 mois de voyage, et elle déboule en France mi-octobre, le 20 octobre je crois. En plus elle va se passer novembre, décembre et janvier en France, ce qui pour une Brésilienne est un bon test d'endurance, quoi. Elle a connu un mec tout seul qui se baladait avec son sac à dos quelque part en Amérique du Sud, et elle arrive à un mec posé à Paris, à Belleville, avec son groupe d'amis, ses habitudes, sa famille à côté, etc. Et puis voilà, et là, on se fait un espèce de nouveau quotidien où elle est là, je l'ai inscrite à l'Alliance française, elle suit un peu des cours de français, elle rencontre une ou deux personnes. Moi, j'ai mon quotidien, donc je me barre le matin à 9h, je rentre à 19h, et c'est dur pour elle. Et je m'en rends d'autant plus compte quand, moi, après, j'ai fait la même chose au Brésil, c'est que t'arrives dans un nouveau pays, qui plus est la France, qui, pour un Brésilien, est un vrai changement, qui plus est en hiver, qui, pour quelqu'un est habitué aux climats tropicaux, est un putain de changement pour le coup. Et toi, t'es là, tu dois faire ta journée, alors tu prends quelques cours de français, tu sais pas trop te repérer dans la ville, tu sais pas encore parler. C'est pas facile, quoi. Mais bon, ça se passe très bien, on kiffe. Et au bout de 3 mois, elle doit se barrer au Brésil, puisque donc son visa se termine. Donc elle s'est barrée au Brésil, elle arrive, elle trouve un boulot. Donc voilà, elle recommence elle-même son quotidien au Brésil. Moi, j'ai le mien en France, et voilà, on est chacun à un bout du monde. À partir de là, on a fait beaucoup d'allers-retours. On essayait de se voir à peu près tous les 2 mois. Donc en gros, moi, dès que j'avais une opportunité, j'allais au Brésil. Dès qu'elle pouvait, elle venait en France. Ça continue comme ça pendant à peu près 3 ans, jusqu'au moment où je la demande en mariage, en fait. C'était un jour où il faisait beau, la chambre était pleine de lumière, c'était super cool. Et puis en fait, on commence un peu à parler de nous, de notre futur et tout. Et puis je lui dis, mais d'ailleurs, en parlant de ça, tout ce qui est futur, machin et tout, je... Ben voilà, que je voudrais que tu deviennes ma femme. Et là, elle a mis, je pense, 2-3 secondes à capter, d'autant plus que la boîte de la bague ressemble pas trop à un écran de bague, donc on dirait une espèce de boîte d'allumettes améliorée. Donc elle capte pas trop, elle ouvre le truc, et là, elle commence à rire et à chialer en même temps, avoir une réaction un peu chelou. Et donc, toi, bon, les jours d'avant, tu te dis, mais putain, imagine, elle dit non. Tu sais, c'est des trucs que tu t'es jamais dit avant, quoi. Tu dis, imagine, je lui dis, et puis elle me dit, bah ouais, mais en fait, non, quoi. Non pour ci ou pour ça, mais non. Mais bon, il se trouve qu'elle a dit oui. Donc on est comme des fous, on passe la journée, elle a sa bague au doigt, on se prend en photo, elle a toujours la main discrètement en avant, tu vois, avec la bague en évidence. Donc je pense qu'elle est contente, moi je suis aux anges. Voilà, c'est génial, quoi. Et puis à partir de là, il faut aussi qu'on se dise où est-ce qu'on va habiter, comment on va habiter. Bon, on en avait déjà parlé, on optait plus pour le Brésil. Moi, j'avais adoré ce pays, j'adore la langue, je la parle. J'ai envie, dans cette optique de changer de vie, justement, d'avoir autre chose. J'ai envie de vivre autre part, j'ai envie d'arriver dans un autre pays. J'ai envie de me refaire, quoi. J'ai envie de voir ce que je vaux ailleurs. J'ai envie de me tester, j'ai envie de me mettre dans d'autres situations. Et là, on est donc allé au Brésil pour s'installer, donc... Ça, c'était il y a 4 mois. J'ai fait tous mes papiers, je suis ici. On vient d'emménager là dans une petite maison. Parce qu'à São Paulo, t'as beaucoup d'immeubles, mais t'as aussi des petites baraques. Et on aime bien cette idée. Donc bon, voilà, en fait, je suis en train de retrouver un quotidien autre part, quoi. Ce que je voulais, en fait, depuis le début. Moi, tout ce qui m'est arrivé de mieux, c'est les moments, justement, où j'avais pas prévu, où je savais pas et où, en fait, tout pouvait m'arriver, quoi. Quand j'étais dans un rythme à peu près normal, il m'est rien arrivé de spécial. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en voyageant, j'ai eu beaucoup plus de propositions de taf. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Je me suis moi-même ouvert beaucoup plus. J'ai eu aussi beaucoup plus d'idées, de choses à développer, à faire. Bah voilà, aujourd'hui, tout le monde parle de sortir de sa zone de confort, etc. Et encore une fois, je vais essayer de pas tomber dans les clichés, mais c'est déjà cliché juste d'en parler. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, justement, de sortir de sa zone de confort. C'est toujours quelque chose... Je pense que je suis une meilleure version de moi-même quand je sors de toutes mes habitudes, de tout mon quotidien, etc. Et voilà, pour moi, refaire sa vie, c'est aussi s'offrir deux vies, quoi. Donc on dit qu'on n'a qu'une vie, et on n'a qu'une vie, mais dans cette vie... Pour l'instant, j'en ai deux et peut-être qu'un beau jour, j'en aurai aussi une troisième. Enfin, voilà, j'ai envie de vivre tout, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est le mieux pour tout le monde. Moi, c'est ce qui me correspond le mieux. Je juge pas et j'ai pas de problème avec les gens qui vivent au même endroit, qui ont un boulot dans la même boîte depuis longtemps, etc. Je trouve ça super aussi. Sauf que moi, ce que j'ai toujours senti, la flamme que j'ai en moi et tout, c'est ça, c'est de rester libre, mobile et indépendant.
chegando mais tarde, já tive de longe. Tu dançando, se acabando, com uma cerveja na mão. Ai, não pude evitar te querer um pouquinho. Fui entrando na fila que tu tava a censurar. Vim dançando de braços abertos, segunda de carnaval. Só pra ver samba, só pra ver samba, só pra ver samba. Junto de você, vejo você, não quer estar aqui. Tento descrever, seria bom, mas não pra ficar assim. Longe de você, veja, ninguém podia acreditar. Quero muito samba, quero muito samba, quero muito samba, quero muito samba. Só pra ver samba.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.